Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Franck Marguin, conseiller régional Les Républicains, conseiller d'arrondissement dans le 12e arrondissement de Paris, président de Paris Région Entreprise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va parler tout à l'heure de vos fonctions en tant que président de Paris Région Entreprise. On parlera peut-être des municipales et des élections européennes. Une question d'actualité, j'aimerais savoir ce que vous inspire le nouveau gouvernement, ce remaniement du gouvernement.
C'est un recentrage, j'allais dire, auprès du président de la République, avec des fidèles du président de la République. On sent tout de même une majorité qui a été ébranlée par de nombreux départs. Je crois que ce gouvernement enregistre le plus grand nombre de départs de ministres depuis tous les gouvernements de la Ve République. Ça montre quand même à quel point les ordres et les contre-ordres de l'équipe Macron-Édouard Philippe ont des difficultés à être compris par leur équipe eux-mêmes. Donc ça montre pour moi une inquiétude supplémentaire face à cette équipe que je qualifierais d'amateur. Et je suis inquiet pour... notre pays, tout simplement. Les personnes en question ont toutes des talents, elles sont reconnues, mais les conditions, en fait, dans lesquelles ces nominations se font et la séquence de toutes ces inconvenues, la difficulté d'avoir une équipe stable... me font penser que le président de la République est usé.
Vous parlez d'équipe d'amateurs. Si vous comparez, par exemple, au quinquennat de François Hollande, au quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous considérez que c'est un gouvernement qui n'est pas à la hauteur ?
Alors, si je compare par rapport au gouvernement de M. Fillon, je dirais que cette équipe-là est effectivement une équipe d'amateurs. Si je compare au premier gouvernement de M. Hollande, je dirais que cette équipe-là est également amateur, mais elle est effectivement moins politique. Ce que M. Hollande avait réussi, c'était en fait de contenter l'ensemble des composantes de sa majorité et avec un savant équilibre d'amener des gens qui n'auraient jamais dû être ministres, mais qui représentaient des partis politiques ou des tendances, ce qui fait que l'échec de M. Hollande a été effroyable, puisque vous aviez une simple combinaison politique pour remercier en fait une loyauté et un soutien dans la campagne, et vous avez chez M. Macron une quantité en fait de personnalités qui n'ont jamais été politiques, ou très peu, et qui donc n'ont pas la capacité de gérer l'État.
Et puisqu'on parle de François Hollande, il s'exprime dans les médias depuis quelques jours, et il prédit une victoire de l'extrême droite en 2022 ou lors de l'élection suivante. C'est un constat, une crainte que vous partagez ?
Alors, c'est quand même un peu incroyable, ça me fait penser, vous savez, aux enfants qui cassent leurs jouets et qui se plaignent que le jouet est cassé. Et je suis bien sûr très inquiet, comme peut l'être maintenant l'ancien président de la République, mais à qui la faute ? Nous avons quand même assisté à 5 ans, si vous voulez, de dissension des Français, où la finance était l'ennemi, où les riches étaient les ennemis, où les familles étaient les ennemis, où l'ensemble des corps sociaux qui constituaient un peu l'historique de notre nation étaient des ennemis. En fait, M. Hollande a beaucoup, beaucoup fracturé le pays, ce qui, bien évidemment, s'est vu dans les urnes, puisque au deuxième tour, nous avions le Front National, et je ne pense pas, du moins je ne l'espère pas, mais je ne pense pas que les Français soient devenus d'extrême droite. Ils expriment dans le vote du Rassemblement National une contestation très forte, et c'est ce qu'ils ont exprimé lors de la présidentielle. Donc j'ai craint, bien sûr, un emballement des extrêmes, on le voit d'ailleurs en Europe, l'association de l'extrême droite et de l'extrême gauche en Italie montre bien que tout est possible, même dans des vieilles démocraties. Mais je trouve que M. Hollande est très mal placé pour crier au loup.
Franck Marguin, vous êtes un élu parisien, un élu francilien. La manifestation des Gilets jaunes n'a pas donné lieu à de graves débordements à Paris samedi dernier. Depuis les graves incidents qui ont visé notamment le Fouquet's et des kiosques à journaux, vous avez le sentiment que la situation est plus sous contrôle ?
Alors, permettez-moi d'abord de dire un mot sur les Gilets jaunes. Je trouve regrettable, mais très regrettable, que ce mouvement se soit fait déborder par des anarchistes et des extrêmes de tout poil. La revendication des Gilets jaunes était vraiment une revendication importante avec un fond. Vous aviez des personnes avec des petites retraites, vous aviez des gens qui, avec le fruit de leur travail, n'arrivaient même pas à vivre. Vous aviez une quantité très importante d'oubliés, oubliés des territoires. Et puis, moi, j'ai été très choqué par l'idée du premier de cordée qu'a essayé d'insuffler Emmanuel Macron. Moi, je pense que la fraternité et la solidarité ne dépend pas d'un premier de cordée. Les petits aident les grands, comme les grands aident les petits. Et moi, je suis totalement opposé à cette idée de dire qu'il faut aider les meilleurs pour qu'ils entraînent la base. C'est assez, comment dirais-je, ancien et méprisant pour l'être humain, et ça ne s'inscrit pas du tout dans la culture politique qui est la mienne, à savoir que chacun, par ses qualités et ses défauts, contribue à la richesse de la nation. Donc, j'ai beaucoup regretté, et je regrette encore beaucoup, que ce mouvement de Gilets jaunes se soit fait, comme je l'ai dit, débordé. Alors maintenant, pour répondre vraiment à votre question, vous dites, samedi, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup d'amateurisme sur cette gestion, en fait, de la foule Gilets jaunes. Je soupçonne également M. Castaner vraiment d'avoir été incompétent. Je le dis avec force. Il n'aurait pas dû laisser se produire ce qui, bien évidemment, ne peut que se produire dans des mouvements de foule. On va incendier le Fouquet's, symbole d'une bourgeoisie riche et installée, où on va incendier le kiosque à journaux, symbole du pouvoir intellectuel. On va incendier une banque, symbole du pouvoir capitaliste. Donc, il fallait bien quand même qu'ils s'attendent à ce que des gens qui récupèrent ce mouvement, des anarchistes en particulier, aillent bien sûr détruire tout ce qui symbolise un ordre plus ou moins d'ailleurs accepté, mais un ordre réel de la société telle qu'elle est. Donc, je suis pas du tout réjoui que ce soit bien passé, parce que ça s'est tellement mal passé que ce qui s'est passé samedi dernier aurait dû être simplement le quotidien de ces manifestations. Nous n'aurions jamais dû avoir ces débordements.
Quel est l'impact de cette crise des Gilets jaunes sur l'économie dans la région Île-de-France, vous qui présidez, Franck Marguin, Paris Région Entreprise ?
Alors, il y a deux types de considérations dans votre question. Tout d'abord, l'impact économique des commerçants et de l'activité quotidienne, si vous voulez, de l'économie francilienne. Et celle-ci, elle est très impactée. Vous ne pouvez pas avoir des manifestations sans cesse sur les endroits les plus, j'allais dire, fertiles du commerce parisien sans que vous ayez des impacts importants. Alors, je ne rentrerai pas dans la querelle des chiffres, mais vous voyez bien, et je pense que les auditeurs comprennent très facilement que quand on impacte depuis 3 mois tous les samedis, notamment une avenue comme les Champs-Élysées ou le quartier comme le 8e arrondissement, qui sont des quartiers où la consommation, une consommation en plus assez haut de gamme, a lieu, vous imaginez que tout ça a un impact sérieux à la fois dans la consommation, mais dans les productions de ces consommations. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui des mises au chômage partielles dans un certain nombre de productions, puisque la consommation n'est pas au rendez-vous. Les commerçants sont étranglés, ils ont même peur, ils considèrent qu'ils sont maltraités, pas protégés. C'est un véritable échec. Maintenant, la deuxième partie, si vous voulez, de la question, c'est est-ce que l'impact des Gilets jaunes est important sur l'international et notamment sur ce qui est mon métier plus particulier chez Paris Région Entreprise, un retour, une remise en cause des implantations. Une implantation, la décision d'une implantation, c'est toujours une décision très longue. Le process est toujours très long. Vous prenez beaucoup de critères et puis vous mettez beaucoup de temps pour vous décider. à aujourd'hui, au moment où je parle à ce micro, nous n'avons pas eu de projet annulé. Il est évident que je vous dirai plus particulièrement dans quelques temps si des projets qui étaient juste en cours, juste en gestation à partir de novembre ou décembre, finalement seront reportés. Je n'en ai pas eu pour l'instant.
Vous qui voyagez à l'étranger dans le cadre de vos fonctions, est-ce que l'image de Paris, de la région Île-de-France, a été touchée par cette crise des Gilets jaunes?
Oui, beaucoup. Et je dois dire que lorsque j'étais à Las Vegas, au grand salon international de la nouvelle technologie, beaucoup, beaucoup de journalistes et beaucoup d'entrepreneurs m'ont demandé des explications sur la force de ce mouvement. Alors, on peut voir deux choses. Tout d'abord, le côté très vocal des Français, puisque les Français, quand ils s'expriment toujours dans la rue, avec beaucoup de cris, beaucoup de bruit. Ça, c'est une réalité. Les débordements, j'en ai parlé, ont été désastreux, et surtout, bien sûr, sur ces chaînes d'information qui sont des chaînes 24 heures sur 24, le sentiment que Paris était un grand désordre.
Il y a des images qui ont frappé les esprits.
Bien sûr,
quand on voit effectivement des incendies.
C'est, absolument. Donc,
c'est spectaculaire.
Les journalistes et les populations qui regardent ce genre d'informations, bien sûr, étaient étonnés, voire très inquiets. Quand vous parlez aux décideurs, ce qui est également mon métier, hein, de parler aux décideurs qui, eux, ont des projets d'installation, comprennent bien que c'est pas un mouvement révolutionnaire au sens où on l'entend dans le monde occidental, puisque les Français travaillent la semaine, se reposent le dimanche et font la révolution le samedi. Et quelque part, c'est un nouvel... une nouvelle organisation, c'est un nouveau mode de contestation où vous ne faites plus grève la semaine, le dimanche vous occupez de vos activités habituelles et le samedi vous contestez. Donc
c'est peut-être ce qui explique que ça dure si longtemps.
C'est d'ailleurs ce qui explique que ça dure si longtemps et ce qui explique bien que c'est une nouvelle opposition face à un nouveau type de gouvernement. Quand un gouvernement vous dit « je ne suis ni de droite ni de gauche, tous les corps intermédiaires ne m'intéressent pas, les collectivités territoriales ne m'intéressent pas, je vais faire de la politique d'un nouveau monde », eh bien, pour moi, il a une contestation d'un nouveau monde. C'est-à-dire, les Gilets jaunes ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont des gens qui contestent la manière de ce président de la République et de son équipe de gérer le pays, et notamment avec le mépris assez fort qu'ils mettent au quotidien dans leurs propos.
Franck Marguin, vous êtes un élu de droite. Vous semble-t-il qu'Emmanuel Macron mène une politique de droite ?
Alors, il mène ni une politique de droite ni une politique de gauche. Il mène une politique ultralibérale, très inspirée en fait du monde anglo-saxon. Et vous savez, Monsieur Hollande a mené la même avec les lois El Khomri sur le travail, où les salariés ne sont plus du tout protégés par les règles prud'homales qui faisaient quand même la force de notre système.
Mais on se dit que François Fillon aurait fait la même chose.
Mais François Fillon aurait certainement apporté des changements importants. Il ne l'aurait peut-être pas fait au mépris des plus petits. Et c'est là où je ne qualifierais pas du tout la politique de M. Macron de d'une politique de droite, mais d'une politique extrêmement libérale, ultra-libérale, où vous n'avez pas pour les plus faibles les parachutes qui sont nécessaires dans toute société cohérente. Et aujourd'hui, les classes moyennes, mais même les classes moyennes supérieures sont dans un sentiment de déclassement. En fait, l'activité et la manière dont Emmanuel Macron et ses équipes gèrent le pays est une simplicité finalement assez déconcertante, où seuls les plus talentueux, les innovateurs, les plus riches, les plus mobiles, les plus informés, sont privilégiés, c'est-à-dire plus d'impôts sur leur patrimoine, plus de lois sociales les obligeant à respecter les employés les plus faibles, la modification de l'ensemble des fonds de pension et des systèmes bancaires. Et vous avez toute une société qui est en train de se retrouver, si vous voulez, dans la loi du plus fort. Et en cela, je n'estime pas que ce soit une politique de droite.
Mais est-ce que vous êtes représentatif, en parlant finalement de cette droite sociale, de la droite aujourd'hui ?
Moi, je crois que dans notre mouvement de droite, vous avez quand même un inspirateur de la droite en France, c'est le général de Gaulle. Et je crois que chacun d'entre nous à droite ne peut que se référencer de cette idée où on a su créer pendant les 30 glorieuses, qui étaient comme 30 glorieuses de droite, un très grand nombre d'amortisseurs sociaux et qui ont été toujours le fil conducteur de la politique. On a créé et la sécurité sociale et le droit du travail et l'ensemble des retraites et l'ensemble des systèmes éducatifs. Donc moi, je m'inscrirai toujours en faux quand on me dit que la gauche a le monopole des petites gens ou des plus fragiles. Ça n'est simplement pas vrai.
Franck Marguin, selon vous, de quelle manière le président Macron peut-il sortir de cette crise des Gilets jaunes ?
Moi, je pense qu'il ne peut sortir de cette crise que sur des élections législatives anticipées. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle lors des crises de mai 68. Lorsque vous avez une crise d'une telle ampleur, avec un tel partage de vues entre les besoins et la réalité, que vous êtes obligé, à mon sens, de vous réinterroger sur votre légitimité.
D'autant plus que les Gilets jaunes ne demandent pas tous la même chose. Il y a des demandes contradictoires.
Alors, c'est un peu le problème de ce mouvement qui s'est fait déborder, parce que dans une incapacité, j'allais dire, de structurer leurs demandes, puisqu'effectivement elles étaient nombreuses et très variées, et puis elles étaient différentes en fonction des endroits où vous habitiez, en fonction des revenus, en fonction de ce qu'est une population, c'est-à-dire en fait des problèmes nombreux et variés. Ils ont été effectivement dans une impossibilité à la fois d'avoir des représentants et d'avoir des demandes qui soient très, j'allais dire, structurées. Ça me rappelle un peu quand même la Révolution française, si vous voulez, avec bien évidemment quelques centaines d'années d'écart et quelques moyens de communication différents. Mais lorsque le peuple français s'est insurgé contre l'Ancien Régime, il n'avait pas au départ, par exemple, la volonté de tuer le roi. Mais il avait la volonté d'abolir des privilèges. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans la même idée, c'est-à-dire abolir des privilèges qui sont donnés à ceux qui sont les plus innovateurs, à ceux qui sont les plus doués, et ne pas se trouver dans une société à deux vitesses. Donc, la seule manière de redemander au peuple si ce que vous avez fait était convenable, quand bien même vous proposeriez dans des élections législatives un certain nombre de changements, bien sûr, et bien demander des élections.
Donc la dissolution pour vous, la restitution du grand débat dans les jours qui viennent, pour vous, ça n'apportera rien de satisfaisant
non,
pour les Français ?
Non, parce que ce que demandent les Français, et je prends ma part, c'est ce que nous demandent les Français depuis 20 ans maintenant, c'est plus de justice. Mais plus de justice réelle, c'est-à-dire pas forcément plus d'argent, un peu plus bien sûr pour les petites retraites ou pour les petits salaires, mais plus de considération, plus de moyens de communication. Je peux vous donner une statistique qui m'a beaucoup troublé l'autre jour. Le vote en faveur du Rassemblement National est en grande couronne, proportionnellement inversé à votre distance d'une station, soit de métro, soit de train, soit d'un système de transport. Plus vous êtes éloigné de la société, c'est-à-dire la possibilité de bouger, d'aller et venir, eh bien plus vous êtes dans la contestation. La grande couronne francilienne n'est pas d'extrême droite, mais elle vote plus largement pour des partis extrêmes parce qu'elle a un sentiment de déclassement. Et c'est ça, en fait, que les Français disent. Ils nous le disaient avant, et j'ai peur, et c'est là où je rejoindrai peut-être les propos de Monsieur Hollande, à force d'avoir tout essayé, on essaiera peut-être un jour des extrêmes.
L'invité de Pluriel est Franck Marguin, conseiller régional Les Républicains. Vous êtes conseiller d'arrondissement dans le 12e arrondissement de Paris et président de Paris Région Entreprise. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Franck Marguin, conseiller régional Les Républicains, conseiller d'arrondissement dans le 12e et président de Paris Région Entreprise. Est-ce qu'on peut évoquer la mission qui est la vôtre au sein de la région Île-de-France. Vous êtes chargé d'inciter des grandes entreprises internationales à choisir la région Île-de-France pour développer leurs activités.
Entre autres, alors tout d'abord, je suis donc président d'une agence, qui est financée par la région et dont le but, dont la mission est effectivement l'attractivité de l'Île-de-France. Ma mission est au quotidien d'essayer de convaincre les investisseurs internationaux de venir investir et de s'établir, de créer des emplois dans la région Île-de-France. Aujourd'hui, pour que vos auditeurs comprennent bien, nous sommes dans une concurrence d'État-région ou de ville-monde, comment vous voulez les appeler. Et c'est assez intéressant de voir qu'avec le Brexit, même si j'étais à titre personnel très opposé au Brexit, je suis triste en fait de voir les Anglais quitter la grande famille européenne, j'ai la mission de dire aux investisseurs internationaux, eh bien, Paris est la place qui vous convient, et c'est bien sûr en concurrence avec Berlin, avec Amsterdam, avec Milan, avec Barcelone. Nous sommes aujourd'hui dans une concurrence. Alors c'est une concurrence bien sûr fraternelle, hein, nous ne sommes pas en guerre, mais économiquement, nous avons besoin d'emplois, et donc la présidente Madame Pécresse m'a chargé d'animer en fait la politique qu'elle met en place sur l'attractivité d'Île-de-France.
Et Valérie Pécresse qui affirme que l'Île-de-France est devenue la première place financière d'Europe. Vous êtes banquier d'origine.
Absolument, absolument, et elle a raison, puisque nous avons d'abord depuis pas mal d'années su développer autour de ce qu'on appelle la gestion d'actifs un très grand nombre d'acteurs, et nous sommes aujourd'hui à Paris la première place financière en matière de gestion d'actifs devant Londres. Et nous sommes sur le continent la première place financière puisque nous avons une capacité de financement et notamment au travers de la finance responsable, de la finance verte, une spécificité très européenne, très française, pardon, au sein d'une Europe également très développée, hein, très sophistiquée sur le plan financier, nous avons su prendre une position de chef de file. Là où elle a d'autant plus raison, c'est que beaucoup de nos concitoyens pensent que seules les entreprises qui sont aujourd'hui en Angleterre viennent s'installer sur le continent, parce que la loi les oblige pour continuer à commercer. Mais là où vous avez un flux très important et qui va se développer de manière massive sur les prochaines années, c'est le flux d'entreprises internationales hors Europe qui avaient décidé ou qui décident ou qui demain décideront de venir commercer en Europe. Elles avaient l'habitude de s'installer à Londres. C'était une magie de Londres d'être, j'allais dire, le terrain d'atterrissage, de quelconque entreprise qui voulait d'abord voir comment ça se passait en Europe. Eh bien, aujourd'hui, mon rôle, ma mission, c'est de dire, le terrain d'atterrissage naturel pour venir faire du business en Europe, c'est la région Île-de-France.
La question des impôts, l'impôt des entreprises, c'est une des demandes importantes des chefs d'entreprise que vous rencontrez. J'imagine que, par exemple, l'Irlande est intéressante pour de nombreuses entreprises.
Oui, vous avez raison. La politique irlandaise d'impôts très bas est un peu déstructurante. Moi, je suis pas partisan du dumping fiscal puisque je pense que les entreprises ont une responsabilité de partager la richesse pour que nos sociétés soient plus cohérentes. Donc, vous avez raison, c'est un peu un handicap, mais heureusement, les chefs d'entreprise ne voient pas que l'impôt sur l'entreprise puisque d'abord, le gouvernement de Monsieur Valls, gouvernement de gauche, a fortement réduit l'impôt sur les entreprises. Et puis, le gouvernement de M. Macron s'est engagé à ce que l'on tombe en dessous de 20%. Donc, cette modification d'un impôt est importante. Mais avant tout, et c'est intéressant de vous me poser la question, les chefs d'entreprise veulent deux choses. Tout d'abord, que leurs cadres puissent avoir une formation bilingue ou une formation dans la langue d'origine de la compagnie. Donc, avec Valérie Pécresse, nous avons investi massivement dans l'instruction multilingue, si je peux l'appeler comme ça, en créant des classes bilingues, en créant un lycée international qu'on a ouvert là à Courbevoie et d'autres à venir. Et puis, la deuxième...
C'est pour les conditions d'installation des familles, concrètement.
Absolument, l'installation des familles, c'est très important. La deuxième raison pour laquelle les entreprises viennent s'installer, c'est le pool des talents. Nous avons énormément d'écoles d'ingénieurs de très grande qualité, des universités comme la Sorbonne, Assas, Dauphine, d'excellentes, des écoles d'ingénieurs extraordinaires, des écoles de commerce extraordinaires, très reconnues sur le plan international, malgré les indicateurs et autres sondages mondiaux. Elles sont très reconnues. Et ça, je peux vous dire que l'ensemble des grands chefs d'entreprise viennent pour ces deux raisons.
En tant que président de Paris Région Entreprise, est-ce que vous êtes sollicité par l'État lorsque des dirigeants étrangers viennent en France? Je pense par exemple au président chinois qui est venu récemment.
Oui, alors nous sommes très sollicités. Alors non pas pour que je reçoive le président, puisque ça, vous imaginez bien que c'est la présidence de la République qui s'en charge, mais pour tout un écosystème qui effectivement se déplace avec les dirigeants des mondes entiers. Lorsque nous avons reçu le président de la Corée, c'était l'année dernière en septembre, j'ai reçu énormément de délégations d'entreprises coréennes. Nous faisons par exemple des tours comme des tour opérateurs, mais pour leur faire connaître leur père, pour leur faire connaître l'écosystème, pour leur faire connaître les possibilités d'installation, les locaux, soit industriels, soit des locaux de bureau. Et nous organisons effectivement des visites de l'Île-de-France.
Il y a aussi le prestige de Paris qui est attractif pour ces entreprises, avoir un siège social, par exemple, dans la capitale française, Franck
Oui,
Linguin.
Alors c'est effectivement une réalité, mais qui est souvent plus une réalité de façade, puisqu'en fait, quand vous vous installez à Paris Région, vous êtes dans Paris. Mais la réalité montre que pour l'industrie du film, par exemple, tous les studios créés sur Saint-Denis sont un endroit vraiment très important pour s'installer. Dans l'industrie, par exemple, médicale, de la science médicale, tout autour d'Ivry et les pôles de le génopôle du cancer sont des endroits où les entreprises et les laboratoires aiment venir s'installer. À Saclay, vous avez beaucoup plus de la recherche. On a créé ce que j'aime beaucoup dans le concept de la présidente Pécresse, c'est une région polycentrique. C'est-à-dire, tout n'est pas concentré sur Paris, même si vous avez raison, la magie du mot Paris reste importante.
Avant les élections régionales, Franck Marguin, je me souviens qu'on avait évoqué avec différents candidats toujours le hiatus entre l'ouest parisien où les entreprises s'implantent et puis l'est de la région Île-de-France où les gens s'installent pour vivre. Est-ce que vous vous attachez aussi à faire en sorte que les entreprises s'installent aussi dans l'est de la région?
Bien sûr, et je vais vous donner un exemple qui me tient alors à cœur, vraiment à cœur. Nous avons décidé avec la présidente de créer dans le 12e arrondissement, où je suis élu, un lycée d'excellence sur l'intelligence artificielle. Ce sera le premier lycée européen avec un campus sur l'intelligence artificielle. Et enfin, nous redonnons à l'est de Paris des lettres de noblesse. Il faut savoir que le lycée Paul Valéry, donc le lycée que nous allons rebâtir, est un lycée qui était vraiment très peu apprécié par les parents d'élèves, puisqu'en fait, ses résultats étaient en dessous de la moyenne nationale, voire très en dessous. Et je dois dire que la municipalité de Paris a complètement oublié l'est de Paris, contrairement à ce qu'elle dit, et n'a pas de projet, j'allais dire, phare, qui donne à l'est de Paris, une valeur emblématique de succès. Et nous, avec la région, nous allons faire de l'est de Paris le nouveau centre, si vous voulez, de succès pour les talents de la génération, j'allais dire, intelligence artificielle.
Franck Marguin, parmi les entreprises internationales qui s'implantent en région Île-de-France, il y a des entreprises venant du monde arabe?
Il y a des entreprises venant du monde arabe, mais je serais, sans trahir de secret, plus enclin à vous dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises du monde de l'Afrique du Nord, par exemple, que des entreprises arabes de style Qatar ou Arabie Saoudite. Là, depuis ces pays-là, nous avons surtout des capitaux. Et c'est assez différent, si vous voulez, des gens qui investissent avec leurs capitaux que d'avoir des entreprises qui viennent s'installer avec des emplois. L'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. Je ne fais pas de différence entre les activités de tout un chacun dont nous avons besoin. Mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats n'ont pas une tradition industrielle, vous le savez. Elles n'ont pas une tradition de grands succès commerciaux, vous le savez aussi. Ce sont des gens qui, au contraire, ont beaucoup de capitaux et qui viennent, et je me réjouis, très souvent les investir en Île-de-France.
Alors Franck Marguin, vous avez évoqué tout à l'heure en creux la municipalité de Paris avec une petite pique contre l'équipe sortante. À quelles conditions une alternance à droite est-elle possible à Paris en 2020 ?
Eh bien, elle est possible que si l'ensemble de nos prétendants s'unissent, puisque j'ai été surpris de voir aujourd'hui un sondage qui est sorti d'ailleurs dimanche soir, je crois, qui mettait côte à côte en matière de pourcentage Madame Hidalgo, Madame Dati et Monsieur Griveaux. Donc l'idée du nouveau monde incontournable fait bien évidemment défaut. Puisque l'illusion qu'ils ont créée, on voit aujourd'hui avec la crise sociale que nous vivons, ils ne sont plus crédibles pour une véritable alternance à Paris. Et nous avions entendu dire, nous les Républicains, que nous étions définitivement enterrés, que notre parti était moribond. Or, c'est une toute autre réalité que les sondages. Bien sûr, ce sont que des sondages, et c'est à un an. Mais quand des sondages vous donnent à égalité avec, soi-disant, la maire sortante qui est incontournable et En Marche, le Nouveau Monde, on a une place et c'est jouable.
Est-ce que le « en même temps » correspond à la sociologie de Paris ? Le candidat de la République En Marche, quel qu'il soit, peut plaire à la fois à des électeurs qui vivent dans les arrondissements de droite et dans les arrondissements de gauche ?
Alors, moi, je ne crois pas du tout, une seule seconde à cette fameuse sociologie de Paris. Moi, je crois que la sociologie de Paris, c'est la sociologie française de gens qui sont capables d'aller et venir quand ils le veulent. Il y a une très grande différence pour moi avec la province. Elle est uniquement sur le moyen de transport, mais elle n'est pas sur la qualité des gens, sur la réflexion. Les Parisiens ont cette chance de pouvoir aller et venir à la fois sur les endroits culturels, sur la formation, sur l'instruction, sur le loisir. Et ça donne à Paris effectivement une homogénéité, j'allais dire, un peu plus forte qu'ailleurs. Mais quand vous voyez les arrondissements du nord de Paris, ils sont abandonnés par la politique de Macron. Ils sont absolument abandonnés. Quand vous voyez tous ces petits retraités qui n'ont même pas de quoi vivre à Paris, qui n'ont même pas de quoi voir leurs enfants, parce que leurs enfants ont été évacués par le pouvoir de Madame Hidalgo dans la périphérie, et le pouvoir de Monsieur Nadal, ça fait 20 ans qu'on évacue en fait les enfants des Parisiens qui n'ont pas la possibilité de s'installer. Donc vous créez des ruptures familiales absolument terribles, et c'est pour ça que nous avions, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'époque, remporté le nombre de voix. Je vous rappelle quand même, et les gens ont oublié maintenant, que nous avons fait plus de voix que Madame Hidalgo. La mécanique, que je ne conteste pas spécialement, mais la mécanique des arrondissements et des listes font que Madame Hidalgo a gagné Paris, mais en nombre de voix, nous étions majoritaires. Je pense que la sociologie de Paris n'est pas ni de droite, ni de gauche, ni bobo. Elle est comme la France, des pauvres qui souffrent et des gens peut-être un peu plus privilégié, mais qui voit dans la politique de Macron un déclassement. Vous savez, moi je pense que la politique de Macron, elle convient peut-être à 100-150 000 personnes dans le pays. Mais l'ensemble des populations, classe supérieure, classe moyenne et classe plus modeste, souffrent de la politique de Macron.
Quel est le bilan pour vous d'Anne Hidalgo ?
Alors, il y a eu des bonnes choses chez Anne Hidalgo, et la seule bonne chose, et je dois quand même reconnaître quand il y a des bonnes choses, c'est d'avoir fait prendre conscience à toute la population parisienne le problème de la pollution de l'air. Ça, je dois dire. Alors, les moyens, on pourra en parler si vous voulez, qu'elle a mis en place pour y remédier, on pourra en contester surtout sa méthode. Mais ça, je dois dire qu'elle restera certainement dans l'histoire de Paris comme la personne qui a alerté, en fait, de manière vraiment institutionnel, hein, on va dire, le problème de l'empoisonnement, si vous voulez, des petits Parisiens par la pollution.
Pour le reste, bilan négatif.
Elle est un peu comme Monsieur Macron, c'est-à-dire qu'elle a promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Moi, j'attendais d'un pouvoir socialiste qu'on fasse attention aux plus modestes, que les familles puissent rester dans Paris. Moi, je suis très attaché, si vous voulez, au lien familial. Moi, je pense que c'est la clé de la cohésion sociale. Et aujourd'hui, quand j'avais proposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis parti en campagne aux primaires à l'élection de la mairie de Paris, j'avais proposé que les logements sociaux soient d'abord réservés aux enfants des familles de Parisiens. Jamais ça n'a été mis en place. La sururbanisation, alors elle répond que, bien sûr, pour avoir de quoi loger les Parisiens, il faut construire. Mais ça n'est pas vrai non plus, puisqu'en fait, vous aviez, depuis M. Delahaye, la possibilité d'étendre Paris. C'est un peu ce qu'on a fait avec le Grand Paris, mais vous ne pourrez plus répondre, si vous voulez, avec cette coupure effroyable que M. Delahaye, d'ailleurs, a renforcée avec le tramway, même s'il y a des bonnes choses dans le tramway. Vous avez une coupure terrible entre Paris et la proche couronne. Et ça, c'est le grand échec de Mme Hidalgo, parce que nous suffoquons. Et je dirais, une fois que vous avez dit ça, eh bien, rien ne peut fonctionner, parce que les écoles se vident, parce que les logements sont chers, parce que les gens veulent absolument rester à Paris, parce que vous n'avez plus assez de place. Rendez-vous compte qu'au carreau du Temple, à côté d'où j'habite, mes neveux jouaient au tennis, dans des tennis municipaux. On a construit des halles d'exposition qui ont sorti en fait les familles moyennes qui voulaient que leurs enfants puissent faire du sport. Et toute cette politique est un échec pour moi, puisqu'elle contribue, mais les chiffres le donnent, hein, c'est pas une analyse subjective de ma personne, ils donnent des chiffres terribles de départ d'un certain nombre de populations. C'est 25 000 enfants qui sont sortis de Paris l'année dernière. C'est un grand échec.
Franck Marguin, quel est pour vous l'enjeu des élections européennes qui ont lieu le 26 mai?
Je crois que l'enjeu numéro un de l'Europe, c'est quelle Europe voulons-nous? Je suis un peu terrassé par l'idée du combat manichéen entre Monsieur Macron et ses équipes qui sont européens, et puis Madame Le Pen et ses équipes qui veulent pas d'Europe. Le débat n'est pas là. On est tous européens. Et quel type d'Europe? Est-ce que nous voulons une Europe qui protège, mais qui protège, encore une fois, les familles, les gens qui travaillent, les retraités, les malades? Rendez-vous compte qu'on est aujourd'hui dans des questions philosophiques extrêmement graves de savoir si on va continuer à soigner les personnes âgées. Le débat s'est ouvert à Bruxelles, en Belgique, il y a 15 jours. C'est un peu la vraie question que nous demandent les électeurs. Les électeurs s'en fichent un peu si on pasteurise leur camembert, toute la classe politique donne toujours des détails terribles et d'ailleurs sont souvent très fautifs de l'incompréhension de l'Europe.
Une dernière question, il nous reste une minute. Vous êtes catholique, pratiquant, Franck Marguin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite du pape au Maroc?
Alors, j'ai été, et là je m'exprime plus en tant que responsable politique, mais à titre personnel, puisque je pense que les affaires religieuses sont des affaires personnelles, j'ai été très séduit par d'abord l'accueil qu'il a reçu, et j'ai été doublement séduit par l'idée que musulmans et chrétiens peuvent vivre ensemble très très bien. La population marocaine a fait une ovation en fait au pape, et on montre bien que hors radicalisme, et d'ailleurs radicalisme de tous bords, hein, que ce soit des intégrismes islamistes ou des intégrismes chrétiens, on peut vraiment vivre ensemble. Ça fait quand même plus de 1500 ans qu'on vit ensemble en Europe, sur le bassin méditerranéen, même s'il y a eu de nombreuses fictions, l'histoire et l'Emmanuel nous le rappellent. Je trouve très dommage qu'on essaye, notamment au sein des partis extrêmes, d'ajouter de l'huile sur le feu entre l'impossibilité de vivre ensemble quand on a une religion différente.
Merci Franck Marguin. Je rappelle que vous êtes conseiller régional Les Républicains, conseiller d'arrondissement à Paris, président de Paris Région Entreprise. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.